Voltaire, Sentiments des citoyens. Après les lettres de la campagne, sont venues celles de la montagne. Voici les sentiments de la ville. On a pitié d'un fou, mais quand la démence devient fureur, on le lie. La tolérance, qui est une vertu, serait alors un vice. Nous avons plaint Jean-Jacques Rousseau, ci-devant citoyen de notre ville, tant qu'il s'est borné dans Paris au malheureux métier d'un bouffon qui recevait des nazardes à l'opéra et qu'on prostituait marchant à quatre pattes sur le théâtre de la Comédie. À la vérité, ces opprobres retombaient en quelque façon sur nous. Il était triste pour un Genevois, arrivant à Paris, de se voir humilié par la honte d'un compatriote. Quelques-uns de nous l'avertirent et ne le corrigèrent pas. Nous avons pardonné à ces romans dans lesquels la décence et la pudeur sont aussi peu ménagées que le bon sens. Notre ville n'était connue auparavant que par des mœurs pures et par des ouvrages solides qui attiraient les étrangers à notre académie. C'est pour la première fois qu'un de nos citoyens l'a fait connaître par des livres qui alarment les mœurs, que les hommes, nettes gens, méprisent et que la pitié condamne. Lorsqu'il mêla l'irreligion à ses romans, nos magistrats furent indispensablement obligés d'imiter ceux de Paris et de Berne, dont les uns le décrétèrent et les autres le chassèrent. Mais le conseil de Genève, écoutant encore sa compassion dans sa justice, laissait une porte ouverte au repentir d'un coupable égaré qui pourrait revenir dans sa patrie et y mériter sa grâce. Oh, aujourd'hui, la patience n'est-elle pas lassée quand il ose publier un nouveau libelle dans lequel il outrage avec fureur la religion chrétienne, la réformation qu'il professe, tous les ministres du Saint-Évangile et tous les corps de l'État. La démence ne peut plus servir d'excuse quand elle fait commettre des crimes. Il aurait beau dire à présent « Reconnaissez ma maladie du cerveau à mes inconséquences et à mes contradictions », il n'en demeurera pas moins vrai que cette folie l'a poussé jusqu'à insulter à Jésus-Christ, jusqu'à imprimer que l'Évangile est un livre scandaleux, téméraire impie dont la morale est d'apprendre aux enfants à renier leur mère et leurs frères, etc. Je ne répéterai pas les autres paroles, elles font frémir. Ils croient en déguiser l'horreur en les mettant dans la bouche d'un contradicteur, mais il ne répond point à ce contradicteur imaginaire. Il n'y en a jamais eu d'assez abandonné pour faire ces infâmes objections et pour tordre si méchamment le sens naturel et divin des paraboles de notre Sauveur. Figurons-nous, ajoute-t-il, une âme infernale analysant ainsi l'Évangile. Mais qui l'a jamais ainsi analysé? Où est cette âme infernale? La Métrie, dans son homme-machine, dit qu'il a connu un dangereux athée dont il rapporte les raisonnements sans les réfuter. On voit assez qui était cet athée. Il n'est pas permis assurément d'étaler de tels poisons sans présenter l'antidote. Il est vrai que Rousseau, dans cet endroit même, se compare à Jésus-Christ avec la même humilité qu'il a dit que nous lui devions dresser une statue. On sait que cette comparaison est un des accès de sa folie. Mais une folie qui blasphème à ce point peut-elle avoir d'autres médecins que la même main qui a fait justice de ces autres scandales? S'il l'a cru préparer dans son style obscur une excuse à ses blasphèmes, en les attribuant à un délateur imaginaire, il n'en peut avoir aucune pour la manière dont il parle des miracles de notre Sauveur. Il dit nettement, sous son propre nom, « Il y a des miracles dans l'Évangile qu'il n'est pas possible de prendre au pied de la lettre sans renoncer au bon sens. » Il tourne en ridicule tous les prodiges que Jésus daigna opérer pour établir la religion. Nous avouons encore ici la démence qu'il a de se dire chrétien quand il sape le premier fondement du christianisme, mais cette folie ne le rend que plus criminel. Être chrétien et vouloir détruire le christianisme n'est pas seulement d'un blasphémateur, mais d'un traître. Après avoir insulté Jésus-Christ, il n'est pas surprenant qu'il outrage les ministres de son Saint-Évangile. Il traite une de leurs professions de foi dans figurie, terme bas et de jargon qui signifie des raisons. Il compare leurs déclarations au plaidoyer de Rabelais. Ils ne savent, dit-il, ni ce qu'ils croient, ni ce qu'ils veulent, ni ce qu'ils disent. On ne sait, dit-il ailleurs, ni ce qu'ils croient, ni ce qu'ils ne croient pas, ni ce qu'ils font semblant de croire. Le voilà donc qui les accuse de la plus noire hypocrisie sans la moindre preuve, sans le moindre prétexte. C'est ainsi qu'il traite ceux qui lui ont pardonné sa première apostasie et qui n'ont pas eu la moindre part à la punition de la seconde quand ses blasphèmes répandus dans un mauvais roman ont été livrés au bourreau. Mais y a-t-il un seul citoyen parmi nous qui, en pesant de sang-froid cette conduite, n'en soit indigné contre ce calomniateur? Est-il permis à un homme, né dans notre ville, d'offenser à ce point nos pasteurs, dont la plupart sont nos parents et nos amis, et qui sont quelquefois nos consolateurs? Considérons qu'il les traite ainsi. Est-ce un savant qui dispute contre des savants? Non, c'est l'auteur d'un opéra et de deux comédies sifflées. Est-ce un homme de bien qui, trompé par un faux zèle, fait des reproches indiscrets à des hommes vertueux? Nous avouons avec douleur et en rougissant que c'est un homme qui porte encore les marques funestes de ses débauches et qui, déguisé en saltimbanque, traîne avec lui de village en village et de montagne en montagne la malheureuse dont il fit mourir la mère et dont il a exposé les enfants à la porte d'un hôpital en rejetant les soins qu'une personne charitable voulait avoir d'eux et en abjurant tous les sentiments de la nature comme il dépouille ceux de l'honneur et de la religion. C'est donc là celui qui ose donner des conseils à nos concitoyens. Nous verrons bientôt quels conseils. C'est donc là celui qui parle des devoirs de la société. Certes, il ne remplit pas ses devoirs quand, dans le même libelle, trahissant la confiance d'un ami, il fait imprimer une de ses lettres pour brouiller ensemble trois pasteurs. C'est ici qu'on peut dire, avec un des premiers hommes de l'Europe, de ce même écrivain, auteur d'un roman d'éducation, que pour élever un jeune homme, il faut commencer par avoir été bien élevé. Venons à ce qui nous regarde particulièrement à notre ville, qu'il voudrait bouleverser parce qu'il y a été repris de justice. Dans quel esprit rapporte-t-il nos troubles assoupis? Pourquoi réveille-t-il nos anciennes querelles et nous parle-t-il de nos malheurs? Veut-il que nous nous égorgions parce qu'on a brûlé un mauvais livre à Paris et à Genève? Quand notre liberté et nos droits seront en danger, nous les défendrons bien sans lui. Il est ridicule qu'un homme de sa sorte, qui n'est plus notre concitoyen, nous dise « Vous n'êtes ni des Spartiates ni des Athéniens, vous êtes des marchands, des artisans, des bourgeois, occupé de vos intérêts privés et de votre gain. Mais nous n'étions pas autre chose quand nous résistâmes à Philippe II et au duc de Savoie. Nous avons acquis notre liberté par notre courage et au prix de notre sang, et nous la maintiendrons de même. Qu'ils cessent de nous appeler esclaves, nous ne le serons jamais. Ils traitent de tyrans les magistrats de notre République, dont les premiers sont élus par nous-mêmes. » On a toujours vu, dit-il, dans le conseil des 200, peu de lumière et encore moins de courage. Il cherche, par des mensonges accumulés, à exciter les 200 contre le petit conseil, les pasteurs contre ces deux corps, et enfin tous contre tous, pour nous exposer au mépris et à la risée de nos voisins. Veut-il nous animer en nous outrageant? Peut-il renverser notre constitution en la défigurant, comme il veut renverser le christianisme dont il ose faire profession? Il suffit d'avertir que la ville qu'il veut troubler le désavoue avec horreur. S'il a cru que nous tirerions l'épée pour le roman d'Émile, il peut mettre cette idée dans le nombre de ses ridicules et de ses folies. Mais il faut lui apprendre que si on châtie légèrement un romancier impie, on punit capitalement un vif séditieux.